Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
17h30, en temps universel, Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington. Au micro, Dilly Dico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce jeudi 3 août, les derniers développements au Niger, des milliers de Nigériens ont manifesté ce jeudi à Niamey en soutien au coup d'État. Le président américain Joe Biden demande la libération immédiate du président déchu Mohamed Bazoum. Au Bénin, deux terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité dans le nord du pays. Ici à Washington, Donald Trump fait face aujourd'hui à sa troisième inculpation pénale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à l'ONU pour marquer la présidence des États-Unis au Conseil de sécurité. Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord le journal. Le Sénégal va participer à une éventuelle intervention militaire au Niger si la CEDEAO décide d'une telle action suite au putsch mené à Niamey. C'est ce qu'a déclaré la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall. Dans la capitale nigérienne, les manifestations pro-putschistes se poursuivent. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La chef de la diplomatie sénégalaise a invoqué les engagements internationaux de son pays envers la CEDEAO et le fait qu'il s'agit du coup d'État de trop, selon elle. Aissata Tall Sall affirme que les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons, vont y aller. La CEDEAO a donné à la junte de Niamey jusqu'à dimanche pour établir dans ses fonctions le président renversé Mohamed Bazoum, sinon elle pourrait recourir à la force. Une réunion des chefs d'État-major des États membres s'est ouverte hier au Nigeria sur la situation nigérienne. Le nouveau pouvoir à Niamey a envoyé un émissaire au Mali et au Burkina Faso, solidaires de leurs voisins. À Niamey, des milliers de personnes ont manifesté dans le calme en soutien au coup d'État. Le Nigeria a coupé son approvisionnement en électricité au Niger, qui dépend énergétiquement à 70% de son voisin. La Banque mondiale, qui a dépensé 1,5 milliard de dollars d'aide au Niger en 2022, a annoncé la suspension des versements pour toutes ses opérations jusqu'à nouvel ordre. Le président Joe Biden a appelé à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et sa famille et à la préservation de la démocratie au Niger.
Toujours au Niger, plus de 1000 personnes, dont 577 ressortissants français, souhaitant quitter le pays, ont été rapatriés, selon une annonce du ministre français des armées, Sébastien Lecornu, confirmant que l'opération d'évacuation vers la France est désormais terminée. Au Bénin, deux terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité mercredi, selon les médias locaux. Cela s'est passé lors d'un échange de tirs qui a eu lieu à Matéri, dans le nord du pays. Le point de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Selon la presse locale, une vingtaine de terroristes ont échangé des tirs avec les forces de défense et de sécurité à Kourkoualou, une zone frontalière située dans la commune de Matéri, dans le nord du Bénin. Deux terroristes ont été tués et plusieurs autres blessés. Aucune perte n'a été enregistrée dans le rang des forces de défense et de sécurité. Tout est parti de l'explosion dans un champ d'une mine artisanale blessant une femme qu'il avait heurtée par mégarde. C'est une fois arrivé sur place que les soldats déployés ont pu repérer une vingtaine de terroristes se retirer des lieux. Les deux camps ont ouvert le feu. Les échanges de tirs ont duré plusieurs minutes. La commune de Matéri, située au nord-ouest du Bénin, à 627 km de Cotonou, a le privilège d'abriter, avec deux autres communes sœurs, le parc national de la Pandjari, un des plus remarquables attraits touristiques du Bénin, qui couvre 275 000 hectares et qui reste, à ce jour, l'une des plus belles réserves de l'Afrique de l'Ouest depuis 1961. Cette attaque intervient quelques jours après la fermeture des frontières du Bénin vis-à-vis du Niger pour dénoncer le coup de force qui a eu lieu dans ce pays. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
L'opposition centrafricaine a qualifié jeudi de mascarade et d'échec cuisant le référendum constitutionnel de dimanche dernier qui devrait permettre au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. La participation très faible a été de 10 à 13%. Au Zimbabwe, les élections présidentielles et législatives prévues le 23 août auront lieu dans le cadre d'un processus électoral gravement défectueux qui ne respecte pas les normes mondiales pour des élections libres et équitables, a estimé ce jeudi l'ONG Human Rights Watch. L'opposition dénonce depuis des mois une répression croissante à l'approche des élections, notamment des arrestations abusives d'opposants, et accuse le parti au pouvoir, le ZANU-PF, d'utiliser les tribunaux pour la cibler et faire taire toute dissidence. La compagnie Ethiopian Airlines a annoncé aujourd'hui avoir suspendu ses vols vers deux villes de la région éthiopienne de l'Amara, où les accrochages se multiplient entre des forces de l'armée fédérale et des combattants locaux. Mercredi soir, le vice-premier ministre Demeke Mekonnen a évoqué des problèmes sécuritaires inquiétants dans cette région du nord du pays qui ont emmené plusieurs ambassades occidentales à recommander à leurs ressortissants de ne pas s'y rendre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien président américain Donald Trump, en campagne pour reconquérir la Maison-Blanche, est convoqué ce jeudi devant un tribunal fédéral à Washington pour répondre d'accusations liées à ses manœuvres qualifiées de criminelles pour inverser les résultats de l'élection de 2020. Les précisions de John Linden.
L'acte d'accusation de 45 pages publié mardi, qui fait notamment état d'un projet criminel, lui reproche d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine en tentant d'altérer le processus de comptabilisation des résultats du vote de plus de 150 millions d'Américains, des inculpations inédites et d'autant plus graves qu'il était alors président en exercice. Le tribunal où l'ensemble des charges retenues lui seront signifiées se trouve à proximité du Capitole, le siège du Congrès américain, pris d'assaut le 6 janvier 2021 par des centaines de ses partisans chauffés à blanc pour y empêcher la certification de la victoire de son adversaire Joe Biden. Le procureur a déclaré mardi vouloir un procès sans délai dans cette affaire. L'ancien président américain fait par ailleurs déjà l'objet de deux poursuites pénales engagées contre lui cette année pour fraude comptable et pour avoir compromis la sécurité nationale par sa désinvolture dans le traitement de documents classifiés. Donald Trump, 77 ans, reste le grand favori des primaires du Parti républicain pour la présidentielle de novembre 2024.
Les États-Unis ont pris la présidence mensuelle du Conseil de sécurité et affiché comme priorité la lutte contre l'insécurité alimentaire liée notamment au conflit. Ce sera le thème de la réunion au siège de l'ONU en présence du chef de la diplomatie américaine. Anthony Blinken appelle à l'ONU à ne pas faire de la faim une arme. Alexandrine Rolognon.
Washington entend faire adopter en marge de cette réunion une déclaration commune condamnant l'utilisation de la nourriture comme d'une arme de guerre. Une déclaration qui a déjà été signée par plus de 75 pays. La Russie est dans le viseur pour son invasion de l'Ukraine, son récent retrait de l'accord céréalier dit de la mer Noire et des attaques de drones russes sur les sites portuaires ukrainiens du Danube, des infrastructures devenues cruciales pour les exportations de céréales. Le refus de la Russie de prolonger cet accord qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire a entraîné une hausse des prix des céréales qui touche particulièrement les pays les plus pauvres. Le chef de la diplomatie américaine annoncera par ailleurs de nouveaux financements pour des programmes de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans une douzaine de pays africains et à Haïti à hauteur de 362 millions de dollars.
Par ailleurs, à l'ONU, des responsables se sont alarmés aujourd'hui de la dégradation de la situation humanitaire dans trois provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, où près de 3,3 millions de personnes ont été déplacées depuis mars 2022. La situation humanitaire en Ituri, dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, déjà catastrophique, s'est dégradée ces derniers mois et il était primordial d'augmenter l'envergure de nos opérations, a déclaré Susanna Ktalek, coordinatrice humanitaire par intérim en RDC, pour les Nations Unies. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a affirmé ce jeudi sa réticence à livrer des missiles de croisière demandés par Kiev pour repousser les forces russes et à suivre ainsi l'exemple du Royaume-Uni et de la France. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec John Lindon.
La Banque mondiale a annoncé mercredi avoir suspendu les déboursements pour toutes ses opérations et jusqu'à nouvel ordre à destination du Niger, une semaine après le coup d'état militaire ayant renversé le président Mohamed Bazoum. La Banque mondiale a dépensé dans le pays 1,5 milliard de dollars en 2022 au travers de ses différents programmes d'aide et avait jusqu'ici versé 730 millions de dollars depuis le début de cette année, selon les données publiées sur le site de l'institution. En Côte d'Ivoire, Orange Bank Africa, banque digitale du groupe Orange, l'un des principaux opérateurs de télécommunications et de services numériques dans le monde, et Visa, leader mondial des paiements numériques, ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique visant à stimuler la croissance économique dans le pays. Selon l'agence Ecofin, ce partenariat a pour but de faciliter l'accès aux meilleures solutions de l'industrie du paiement adaptées aux besoins des clients du groupe Orange. L'intelligence artificielle promet de révolutionner un large éventail de professions, une perspective angoissante pour de nombreux travailleurs ici aux États-Unis qui s'inquiètent de voir leur métier se transformer ou disparaître avec notamment le lancement des applications comme ChatGPT. Dans une étude publiée en mars, des analyses de la banque Goldman Sachs voient l'intelligence artificielle générative supprimer pas moins de 300 millions d'emplois. C'était la Minute Éco avec John Lindon pour VOA Afrique.
Place au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Dili, bonsoir à tous.
On commence par le football, Yacouba. Le Maroc fait sensation au mondial féminin.
Oui, étrié par l'Allemagne lors du premier match 6-0, les Lions de l'Atlas, qui disputent la première Coupe du monde féminine de leur histoire, ont rugi d'abord lors du deuxième match contre la Corée du Sud, battu 1-0, un score qu'elles ont infligé aux Colombiennes aujourd'hui. Les Marocaines sont les invitées surprises des huitièmes de finale. En quart de finale mardi, elles feront face à la France. L'autre grosse sensation, c'est l'élimination de l'Allemagne tombée de très haut en concédant le match nul contre la Corée du Sud, un but partout. C'est un drame, affirme la ministre allemande des Affaires étrangères. La moisson est bonne pour l'Afrique après le premier tour. Le continent place 3 équipes sur 4 en huitième de finale. Avant le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont arraché leur ticket pour les huitièmes. Seule la Zambie est éliminée à l'issue de la phase de groupe. Les Sud-Africaines jouent contre les Pays-Bas le 5 août et les Super Falcons défient l'Angleterre le 7 août.
Basketball maintenant avec les nouvelles de l'Afro-Basket Dames qui se déroule à Kigali au Rwanda.
Un match de classement pour les 5e et 8e places, le Cameroun a battu la Guinée 74-37. Le Mozambique a pris le dessus sur l'Ouganda 88-62. La demi-finale se joue aussi ce soir. Le Rwanda et le Nigeria sont aux prises. Dans la seconde demi-finale, les Maliennes affrontent les Sénégalaises. Pour rappel, cette 28e édition de l'Afro-Basket Dames a commencé le 28 juillet avec 12 équipes au départ. La finale aura lieu le 5 août à la Beka Arena dans la capitale rwandaise.
Et enfin, gros scandale dans l'athlétisme somalien après un 100 mètres devenu viral aux Jeux universitaires.
Les autorités sportives somaliennes ont suspendu la présidente de leur fédération d'athlétisme. Elle est accusée d'abus de pouvoir et d'avoir ridiculisé le pays en alignant une représentante sans aucune formation sportive arrivée largement dernière d'un 100 mètres lors des Jeux universitaires d'été à Chengdu en Chine. Une vidéo devenue virale montre la jeune femme franchir péniblement après une interminable course la ligne d'arrivée plus de 10 secondes après la gagnante. Le clip a suscité moquerie et indignation sur les réseaux sociaux, surtout parmi les Somaliens qui accusent la jeune femme, identifiée comme étant Nasro Aboubakar Ali, une membre de la famille de la présidente de la Fédération d'athlétisme, Khadijo Adan Dahir.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dilly Dico de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. La Maison Blanche dit suivre de très près la situation au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet, alors que son ambassadeur des États-Unis se prépare à évacuer le personnel. Des analystes affirment que Moscou et Pékin surveillent également Niamey, où les putschistes ont reçu un ultimatum de la CEDEAO pour rétablir, avant lundi, le président Mohamed Bazoum. Nathalie Barge relate un compte-rendu d'Anita Powell à Washington.
Cela devient un schéma familier en Afrique de l'Ouest ces trois dernières années. Un groupe d'officiers se disant mécontents de l'insécurité et de la mauvaise gouvernance qui séquestre le chef de l'État prennent le contrôle des ondes et se déclarent aux commandes. En effet, après les coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, c'est au tour du Niger de voir son président renversé par des militaires. Le colonel Amadou Abdrahmane, porte-parole de la junte, le jour du putsch.
Ce jour, 26 juillet 2023, nos forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez.
Washington a déclaré surveiller de très près la situation au Niger pour voir si une diplomatie intense serait en mesure de ramener au pouvoir le président déchu Mohamed Bazoum, pour qui le département d'État a exprimé un soutien indéfectible. Le Niger est un partenaire clé des États-Unis dans la lutte contre le djihadisme au Sahel, avec une base de drones et environ 1100 soldats américains dans le pays. VOA Afrique s'est entretenu de la situation avec l'ambassadeur du Niger aux États-Unis, Mamadou Kyari Limantingiri.
Il y a au moins deux semaines, nous avions ici une équipe de nos militaires pour une rencontre avec les autorités américaines. Nous sommes allés ensemble au Pentagone. Nous sommes allés ensemble au département d'État. Et une semaine plus tard, nous nous débrouillons mal. Qu'est-ce que cela signifie? Ça n'a aucun sens du tout.
Des analystes notent que cette région fragile et riche en ressources naturelles est également dans la ligne de mire d'autres grandes puissances. L'expert en stratégie et relations internationales Sean McFaith, professeur à l'Université de la Défense nationale des États-Unis.
C'est une guerre par procuration et il y a eu une guerre par procuration en cours en Afrique depuis au moins 3, 4 ou 5 ans. C'est en quelque sorte une nouvelle ruée vers l'Afrique. Mais ici, les forces extérieures sont les États-Unis, la Russie et la Chine. La Russie aime conquérir à travers le groupe Wagner. Pour la Chine, on pourrait utiliser le terme de guerre économique appelée l'initiative de la ceinture et de la route.
Le département d'État dit ne pas avoir de preuves d'implication de mercenaires russes au Niger, tout en estimant qu'ils essaieraient probablement de tirer parti de l'instabilité. Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain.
Je ne serais pas surpris de voir les Wagner tenter d'exploiter cette situation à leur propre avantage, comme ils ont tenté d'exploiter d'autres situations en Afrique. Et quand je dis à leur avantage, je veux dire au plan financier personnel et pour étendre leur influence sur le continent.
Sean McFaith dit douter que les putschistes de Niamey se plient aux pressions de Washington ou de toute autre puissance occidentale.
Beaucoup d'Africains ne voient pas les États-Unis comme un partenaire engagé. Je pense donc que les opportunités pour les carottes et les bâtons de Washington sont limitées et qu'elles sont franchement contestées par la Russie et la Chine.
Les États-Unis et d'autres bailleurs occidentaux ont suspendu leur aide au Niger après le coup d'État. La CEDEAO a donné aux putschistes un délai d'une semaine, soit jusqu'à dimanche, pour rétablir le président Mohamed Bazoum, menaçant de recourir à la force s'il ne se conformait pas à cette exigence des dirigeants ouest-africains.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Au Burkina Faso, pour éviter que la situation sécuritaire ne dégénère en conflit religieux, les différentes confessions de la ville de Bobo-Dioulasso ont pris des mesures importantes. Elles ont mis en place une organisation nommée Dialogue interreligieux qui rassemble les représentants de l'Église et les hautes autorités musulmanes de la ville. L'entente entre les chefs religieux permet de favoriser un climat de respect et de tolérance entre les différentes communautés religieuses de la région. Un reportage de Alidou Ouédraogo à Bobo-Dioulasso.
Préserver la paix est le souci premier des religieux à Bobo-Dioulasso. Pour cela, aucun sacrifice n'est de trop. Concertation entre leaders, sensibilisation dans les églises et mosquées. Ce jour, chrétiens et musulmans attendaient notre équipe au siège de la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso et c'est Oumarou Monet de la Fédération des associations islamiques du Burkina qui prend la parole en premier.
Notre mission majeure, c'est de superviser les différents discours qui se font au niveau donc de l'Église, au niveau donc l'Église catholique, l'Église protestante, également dans les mosquées, les différents sermons qui sont faits, quels sont les messages qui sont véhiculés. Si donc nous constatons qu'il y a des dérives ou bien des messages assez extrémistes, des messages violents, nous interpellons donc les leaders et nous échangeons avec eux, dans le sens donc de faire en sorte que le discours soit un discours rassembleur.
Une activité de sensibilisation dans le but d'éviter les amalgames ou maroumonés.
Et dans les mosquées, nous puissions sensibiliser donc les musulmans à considérer leurs frères chrétiens comme leurs frères. Et nous disons également aux frères chrétiens de faire la même chose, de dire dans les églises que les musulmans sont leurs frères, les musulmans également sont leurs voisins. Et le terme djihadiste, nous avons demandé à ce qu'ils puissent clarifier ça. Beaucoup de chrétiens ne sont pas au courant de ça. Ils entendent ça dans les médias, ils ne savent pas ce que c'est. Mais si le prêtre ou bien le pasteur explique ça à ses fidèles à l'église, ça va encore amener la paix, parce que les gens vont comprendre qu'en réalité, ceux qui se réclament de ces djihadistes-là ne sont pas musulmans.
Pour le pasteur Khalifa Bioun de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques, le risque d'un conflit interreligieux est bien présent et qu'il faut multiplier les efforts pour le minimiser.
Il n'y a pas de risque qu'il y ait un conflit interreligieux, ce serait mentir. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui, nos responsables travaillent. Quand je parle des responsables, ce n'est pas seulement politique, mais les responsables religieux aujourd'hui travaillent pour minimiser ce risque.
Le pasteur Khalifa Bioun explique que le langage dans les églises aujourd'hui doit être spécifique.
Dans les églises aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas confondre une ethnie avec le terrorisme. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas confondre, faire l'amalgame entre une religion et le terrorisme. C'est deux choses différentes. Et si, dans nos comportements, dans notre façon de faire, dans le langage, on arrive à faire cette différence, je dirais qu'on aurait gagné une bonne partie de cette guerre-là, si je peux le dire ainsi.
La concertation entre chrétiens et musulmans est devenue aujourd'hui un impératif de l'avis des différents responsables religieux. Alidou Ouédraogo, Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Reporters sans frontières annonce l'élaboration d'une charte qui devra encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias en vue de protéger l'intégrité de l'information. Cette tâche est confiée à une commission internationale présidée par la journaliste philippine Maria Ressa, prix Nobel de la paix 2021. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Paris le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire.
Bien sûr que l'intelligence artificielle peut être utile. En fait, toutes ces innovations, il ne faut pas les voir seulement négativement, comme il ne faut pas les voir seulement positivement. Au fond, c'est comme des outils, certains diront comme des armes. Ça peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. La question, c'est bien que ce soit utilisés positivement. Et donc là, en l'occurrence, ça serve l'indépendance de l'information, ça sert son pluralisme, ça sert sa fiabilité. Et cet outil, encore une fois, pourra être utilisé de différentes manières. L'enjeu, c'est de préciser pour un outil qui est totalement nouveau, donc qui va faire l'objet d'utilisation totalement nouvelle, de trouver quelles doivent être des règles de base qui sont fondées des règles démocratiques et qui correspondent à l'éthique journalistique, à ce qui permet de fonder une information fiable.
Concrètement, quels sont les dangers déjà constatés, des cas concrets que vous pouvez citer par exemple?
Chacun les a vus. Ces exemples sont différents en fonction des pays, mais certains ont fait le tour du monde.
Exemple de l'Afrique.
Il est aisé dans des contextes où la désinformation peut prendre des formes multiples, et on a vu qu'il y avait une industrie de la désinformation, soit à la solde d'État, soit à la solde d'entreprises privées, parfois de groupes sociaux, religieux, enfin de toutes sortes de pouvoirs. L'intelligence artificielle, elle a ceci qu'elle permet en plus de créer des fausses photos, des fausses vidéos, qu'on prendrait pour du vrai, tellement la qualité de production, la qualité technique est grande, mais la qualité technique, elle peut servir à...
Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est convoqué ce jeudi devant un tribunal fédéral à Washington pour répondre d'accusations liées à ses manœuvres criminelles pour inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Minneapolis Jean-Pierre Bonguila, professeur de leadership à l'université St. Thomas dans le Minnesota.
Les forfaits qui lui sont reprochés sont très très sévères, particulièrement celui du 6 janvier, qui le traite même de traître, on parle de trahison. Et la trahison dans un pays comme les États-Unis a toujours été sanctionnée très sévèrement et parfois de peine capitale. Et je ne dis pas que ça irait jusque-là dans son cas, parce que c'est la première fois que les États-Unis ont un président devant la cour pour plusieurs forfaits qu'il a commis. C'est une histoire qui est en train de s'écrire dans l'histoire des États-Unis. C'est une très grande première. Si bien que tout le monde se demande comment procéder dans le cas de Trump, parce que ça n'a jamais existé auparavant. Mais toujours est-il qu'il est citoyen des États-Unis comme tout autre citoyen, et tout le monde est égal devant la loi. Il devra faire face à la loi, et s'il y a sanction, ce sera des sanctions qui devront être à la hauteur de lui et à la hauteur de tout le monde. Donc voyons voir. Toujours est-il que il fait face aux tribunaux comme tout le monde pour l'instant. Mais je dois ajouter que de l'intérieur, il doit être dans une très grande agitation. Même si de l'extérieur, il donne une carapace suffisamment solide, mais de l'intérieur, il est très bouleversé.
Il garde quand même une forte influence au niveau de son parti comme candidat. Il est même le candidat le plus fort. Mais celui qui était son vice-président, Mike Pence, est sorti de son silence pour dire qu'il ne devrait pas être président, quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle dynamique pourrait l'affaiblir comme candidat favori?
Absolument, il va s'affaiblir de plus en plus. Nous disons qu'au départ, il y avait presque 92% des républicains qui le soutenaient. Mais quand vous lisez les sondages pour l'instant, nous sommes descendus presque à 50 ou 49% des républicains qui continuent à le soutenir. Plus les gens voient en lui un candidat qui a commis beaucoup de forfaits dans ce pays ici, les gens sont en train de se désolidariser de lui. Personne ne veut pactiser avec quelqu'un qui a trahi son propre pays. Et Mike Pence était quelqu'un de très fidèle vis-à-vis de Trump quand ils étaient au pouvoir, jusqu'à la dernière minute où Trump a fait le putsch, il faut appeler ça putsch, du 6 janvier. C'est dans ce moment-là que Mike Pence a réellement vu la vraie face de Trump et il s'est rétracté petit à petit. Comme candidat à la présidence pour l'instant, il y a deux choses qui le motivent. D'abord, le fait que, effectivement, honnêtement parlant, Trump n'est pas un candidat qu'on peut soutenir, mais aussi il y a le fait que, personnellement, il s'est dit que Trump a voulu que Mike Pence soit pendu. Quand les gens criaient qu'il fallait pendre Mike Pence et qu'ils avaient déjà monté un échafaudage pour le pendre, Trump n'a même pas appelé son vice-président pour lui dire, ou il n'a pas appelé les troupes pour qu'elle retourne et épargner la vie de Mike Pence. Pour lui, c'était son pouvoir.
Jean-Pierre Bonguila, professeur de leadership à l'Université Saint-Thomas dans le Minnesota. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.